Bien, maintenant la parole est à vous, donc vous allez pouvoir poser vos questions. Simplement, je suis juste là pour voir les mains qui se lèvent, pour éviter que plusieurs questions fusent en même temps. Mon rôle se borne à distribuer la parole. Allez-y.
Je sais pas si c'est une question. On constate quand même que en France, autant du côté des journalistes, des médias, des hommes politiques, il y a une inculture crasse en matière de religion, toute religion confondue.
Oui, tout à fait.
Un peu n'importe quoi. Tout compte, c'est le buzz. Tout compte, un peu, c'est le buzz. Et puis, quand même, il y a. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. On a vraiment l'impression que du côté de l'islam, il y a un problème. Comment dire ? Un déficit de. Alors, on a l'impression que si on compare l'islam ou la connaissance qu'on peut en avoir par rapport aux autres religions, catholiques et protestantes et judaïques, on a l'impression qu'il y a un énorme déficit sur le plan de la théologie, sur le plan de la philosophie religieuse, sur le plan même de l'enseignement. On va dire l'enseignement religieux auprès des fidèles et même des enfants, ce que nous on appelle le catéchisme. Alors, je dis peut-être des bêtises parce que je ne sais pas.
Non, parlez à l'aise, il n'y a pas de.
Voilà. Et on a l'impression aussi. Et donc tout ça concourt au fait que, vu de l'extérieur, l'islam c'est quelque chose qui est pas très. Qu'on a du mal à définir. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ben, ça se passait quand même bien dans la société française. Hein, les musulmans ne causaient aucun problème, ça se passait bien. Et puis avec tout ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, ça se dégrade. Et on a l'impression, comme vous disiez, que c'est une certaine vision de l'islam qui est revendiquée par des gens qui certainement n'ont aucune culture, aucune... connaissances théologiques, même de la langue arabe, qui véhicule des préceptes ou une théologie qui n'a rien à voir avec le vrai islam. Mmh. Mais là encore, le vrai islam, qu'est-ce que c'est ? Mais bon, tout ça, c'est pas clair, et on a l'impression que c'est vrai que c'est la faute de notre société et de nos médias, mais peut-être aussi qu'il y a une bonne part de responsabilité de votre côté pour vous rendre visible, compréhensible, mais c'est vrai qu'on vous demande de faire en 20 ans ce que nous, on a mis... 2-3 siècles à faire.
Mmh. Tout à fait. Alors, sur le plan intellectuel, en termes de production intellectuelle, les bibliothèques sont pleines. Tout le monde le connaît. Alors, on parlait du Coran. Vous avez une science qui s'appelle l'exégèse du Coran, comme l'exégèse de la Bible. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de commentateurs du Coran. Déjà au moyen du 6e siècle, au moins du 6e, jusqu'au XIIIe siècle, il y avait une production, mais un océan de commentaires du Coran. Rien que dans ma bibliothèque, moi qui suis un petit imam, si vous voulez, j'ai 3 exégèses du Coran. Chaque exégèse compte à peu près entre 8 et 10 volumes. 10 volumes. Avec une approche mystique, une approche linguistique, une approche juridique, une approche théologique du Coran. Monsieur Obrou nous disait qu'il y a un commentaire du Coran au 8e siècle qui compte 500 volumes. Chaque volume, 2000 pages. Pour vous dire un peu rien qui est sur le plan de l'exégèse. Ne parlez pas du droit, ne parlez pas de la philosophie, ne parlons pas de... Enfin, c'est pour cela que M. Aubry dit, la modernité des musulmans, c'est le Moyen-Âge, c'est le passé. C'est le passé. Donc ça, et ça, si vous demandez n'importe quel historien, il vous dira. Par contre, c'est vrai surtout à partir du 18e, 19e, 20e siècle, où le monde, culturellement ou religieusement, bon, chez les musulmans, il était sous la colonisation. Après la colonisation, il y a les autoritarismes. Donc il n'y a plus de production à cause des situations politiques. Donc il y avait l'inertie un peu de la raison, donc il n'y a plus de production plus ou moins intellectuelle. Par contre, concernant le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette visibilité effectivement qui pose problème en France. Il y a la raison que vous avez évoquée. Sont aussi le produit de la sécularisation, cette inculture chez beaucoup de nos concitoyens de confession musulmane. Vous avez, parce qu'il y a plusieurs facteurs, il faut toujours regarder le problème dans sa complexité, dans sa pluralité. Il n'y a pas que le facteur religieux. Il y a un manque de culture religieuse. il y a, c'est vrai, une fixation sur l'islam interprété au Moyen-Âge, il n'y a plus de réforme. C'est pour cela les avis de M. Obrou, qui est un réformiste, ça choque les musulmans, les premiers, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Quand il réduit la dimension, il dit que le foulard est une pratique minime, que ce n'est pas très important, et les premiers qui sont contestés, quand il dit qu'il n'y a pas de rite alimentaire, les premiers qui sont choqués, c'est les musulmans. Donc il y a effectivement un travail à faire, c'est le plan religieux. Pour vous donner un peu ce qu'on fait à Bordeaux, on ouvre effectivement du catéchisme ou de l'enseignement de l'islam, ça c'est notre priorité. Dès la première chose, même avant de construire des mosquées, le plus important c'est la transmission, c'est de penser quel islam on va enseigner à nos enfants. On a aujourd'hui dans notre école 1200 élèves, dans ce nom est Bordeaux. Et on leur enseigne exactement cette approche. C'est quoi le Coran? C'est quoi Dieu? C'est quoi le prophète? Etc. Là on a fait, on a organisé un concours, c'est le printemps du prophète. On a demandé aux élèves de parler du prophète. D'accord? Il n'y a pas un seul élève qui vous a parlé du djihad au sang de guerre. Aucun. Ils ont parlé de l'affection du prophète, l'amour pour ses enfants, son amour pour ses ennemis, pour vous dire un peu cet enseignement que nous sommes en. Alors on insiste beaucoup aussi sur l'idée de l'appartenance citoyenne. D'accord? Vous êtes d'abord des Français. Et ça, on utilise les textes du Coran et de la Sunna. Parce que le prophète, et les textes le disent, il était amoureux de sa patrie. Et c'est ça ce qui définit aujourd'hui la francité. Les débats aujourd'hui, c'est la double nationalité, etc. Ce qui définit la francité, c'est d'abord cet attachement affectif à la France. C'est pas une appartenance de sang. Comme disait Renan, c'est l'amour de la France, l'affection. Et le prophète avait l'amour de la Mecque. Il disait, oh la Mecque, si les polythéistes n'ont pas obligé de s'exiler, t'es la ville que j'aime le plus dans le monde. C'est sa patrie. Donc on enseigne cet amour de la France, en partant du texte de l'islam. D'ailleurs, on le disait à la mairie de Pessac, à l'époque, on avait un projet, qui est complètement avec d'ailleurs Charles, et que je salue aujourd'hui ce soir, que Dieu le préserve. Le projet qu'avait Charles avec nous, c'était de construire à Pessac, non pas un lieu de culte, mais un lieu de culture. Pour que les Pessakais s'approprient le lieu. On ne veut pas dans une mosquée où les musulmans se trouvent tout seuls, enfermés entre eux. On veut, il y a un aspect culturel, mais il faut partager l'islam en tant que culture avec les autres citoyens. Donc là, pour enseigner à travers le religieux l'amour de la patrie. Donc comment être un bon citoyen français, mais en utilisant un vocabulaire religieux. Donc, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Effectivement, je suis d'accord avec vous, rares sont des mosquées qui font cet enseignement. Et s'il y a un enseignement de l'islam, c'est halal haram. C'est-à-dire, ne fais pas, ça c'est interdit, et tu trouves un enfant ou des jeunes qui sont en conflit avec la société. Parfois, ils sont sincères, hein, ils ne sont pas intégristes, hein, ils ne sont pas fanatiques. C'est le manque de connaissances. Si vous trouvez une famille qui pose problème parce qu'elle ne veut pas que ses enfants mangent à la cantine, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, elle veut poser problème. Non, c'est simplement on lui a dit ça. Dans sa tête, elle avait un prédicateur qui lui a dit, bon, si tu manges le porc, tu risques l'enfer. Quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas les textes, il va avoir peur. D'accord. Troisième problème qui pose problème des musulmans, c'est d'abord l'islam est vécu dans des cultures maghrébines ou africaines. On n'arrive pas encore. Même à la troisième génération. La troisième génération de Français dont les parents sont d'origine étrangère ou maghrébine, l'islam qu'ils ont, c'est l'islam de leur village du Maroc des années 30, avec un bon accent français. Tout simplement, c'est ça la différence. La différence entre eux et leurs grands-parents, c'est qu'eux, ils parlent le même islam, mais sans accent. Donc, il est vécu dans une culture maghrébine, dans une culture africaine, dans une culture... Tout l'effort et le travail qu'a fait M. Obrou, c'est de le penser dans la culture française. Et d'ailleurs, le Coran le dit. « Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi » Chaque prophète a été envoyé avec la bonne traduction, c'est pas avec la langue de son peuple. On voit souvent cette traduction en français. Non, avec la culture de son peuple. Vous le disiez hier, mon père, par rapport aux évangiles. L'évangile de Matthieu, c'est pas l'évangile de Saint Paul. Chacun écrit l'évangile selon sa culture, selon sa langue, pas au niveau linguistique, mais au niveau de la culture. Et là, c'est un grand défi. Si les musulmans ne sortent pas l'islam des cultures maghrébines ou africaines ou étrangères, et le penser et le vivre dans la culture française et dans la laïcité française, il pose problème. Donc, voilà. Ah oui.
Il y a le problème de la langue arabe.
Alors, la maîtrise de la langue arabe, c'est pour les spécialistes. C'est comme les protestants, pour lire la Torah, ils parlent hébreu. Tous les pasteurs protestants aujourd'hui parlent hébreu. Oui, vous attendez.
Il y a le problème de la formation des imams.
Oui, ça aussi.
Beaucoup d'imams sont formés
à l'étranger,
dans leur pays d'origine, et du coup, pour porter l'islam dans la France,
il faut des imams français. Voilà. Il faut des imams français. Et ça, c'est notre combat. On a aujourd'hui à Bordeaux un séminaire théologique, comme dans le judaïsme. On a appelé le séminaire théologique de Bordeaux. D'ailleurs, le séminaire d'hier est obligatoire pour les imams. Le séminaire des prêtres et des imams. Tu ne peux pas penser l'islam si tu n'as pas une bonne connaissance de la théologie chrétienne. Ça fait partie du cursus.
Donc, on est dans la thématique de religion des livres.
Oui.
Donc, moi, je voulais savoir un petit peu comment se pratique, comment se vit la religion musulmane. Ça, c'est... Même si vous ne comprenez pas.
Si, si, j'ai compris. J'ai bien compris.
Deuxième chose, vous avez dit que Jésus ne vient pas de l'essence de Dieu.
Oui.
Bon, nous, en tant que croyants chrétiens, quelle que soit la dénomination, nous disons que croyons que Jésus est Dieu fait homme.
Oui, tout à fait.
Etc. Donc, j'aimerais avoir une petite explication là-dessus pour ma foi personnelle. Donc, j'ai parlé de foi, mais quand est-ce qu'on parle de foi dans le Coran? Et comment se passe le salut d'un musulman croyant? À partir de quand il peut dire, voilà, je suis dans le chemin du salut, je peux dire, je suis sauvé ou pas? Dernière chose, vous parlez beaucoup de. Enfin, vous avez beaucoup parlé de mystique. Bon, je voulais que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi vous parlez de mystique, musulman, mystique. Ça m'interpelle un petit peu.
C'est le mystère de la Trinité.
Merci.
Même les prêtres, mystère. Très bien, merci.
À la miséricorde, vous bénissez.
Merci pour vos questions théologiques. C'est très important. Alors, je commence d'abord par la première, que Dieu et Jésus n'est pas d'essence divine. J'ai cité cet exemple, non pas pour rentrer dans un débat théologique complexe, parce qu'il faut parler du nom et des attributs de Dieu. Parce que tout à l'heure, je ne cesse pas de parler de parole de Dieu. Ça veut dire quoi une parole? La parole, ce n'est pas la voix. Donc, on va rentrer vraiment dans un débat qui nous dépasse. Et le Coran a résolu ce débat en disant que Dieu est transcendant, insaisissable. On n'a de lui que ses traces. Tu peux chercher à donner une forme à Dieu, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, que l'islam d'ailleurs interdit d'une manière dogmatique. Mais tu vas arriver à rien. Même l'univers physique, on est incapable de le connaître rationnellement. Vous demandez aujourd'hui, c'est pas mon domaine, vous demandez aujourd'hui aux physiciens, ils deviennent croyants, ils deviennent fous. Vous avez deux choix. Quand tu avances dans le domaine scientifique, ou tu crois, ou tu deviens fou. Donc même le corps humain, le cerveau aujourd'hui, reste un mystère. Mystère, c'est qu'il est insaisissable par la raison. Aujourd'hui, même notre corps physique reste un mystère. La science n'a pas tout découvert, elle ne découvrira pas tout. « Wa ma utitu min al-ilmi illa qalil » nous dit le Coran. Vous n'avez de science que si peu. D'accord ? À plus forte raison, Dieu. Par contre, Dieu, on peut le saisir par l'âme, par l'esprit. Donc quand on dit Dieu est par essence insaisissable ou métaphysique, donc il y a cette démarcation par rapport à l'être humain, par rapport à sa créature. Il crée, d'accord ? C'est pour cela que Jésus est un verbe d'acte, pas d'essence. C'est une petite différence théologique entre chrétiens et musulmans. Mais nous sommes tous d'accord que Jésus est un verbe. Et verbe ici au sens métaphysique. Kun fayakun. Comment c'est fait ? Il a dit existe, il a existé. Autre dimension importante et qui fait la grande particularité de Jésus et de Marie, c'est que ce verbe d'acte est porté par Marie. C'est quand même, je ne sais pas si vous imaginez ça, moi, quand j'essaie de vivre ce verset quand il parle de Marie, Marie choisit pour porter le verbe divin. J'ai dit, Marie n'est pas une femme comme les autres. D'accord ? C'est quand même quelque chose d'inimaginable. C'est quand même, en termes du poids spirituel de cette femme. Donc c'est une petite différence d'ordre théologique. Hein? Parce que si on dit Jésus est d'essence divine, on donne une forme humaine à Dieu. Et Dieu n'est ni dans l'espace ni dans le temps. D'accord ? Voilà à peu près. Quant à la question du salut, elle est très importante. Et vous me donnez l'occasion de revenir sur ce grand thème traité par le Coran. D'abord, la question du salut, il faut la voir à travers les noms et les attributs de Dieu. Puisque Dieu est affection, il faut toujours avoir l'espoir du salut pour l'humanité tout entière. Cela n'exclut pas la liberté de l'homme. Donc déjà, le point de départ, le salut universel, pour tout le monde. Il n'y a pas plus grave que de dire à quelqu'un « tu n'auras pas le salut ». Il n'y a aucun homme religieux, ni aucune institution, ni aucune personne n'a le droit de dire à quelqu'un « tu auras le salut ou tu n'auras pas ». Le rôle d'un, même les prophètes. Par contre, le rôle d'un prophète et des religieux ou des croyants, c'est de dire « voilà le chemin qui mène vers Dieu ». Voilà la voie qui mène vers Dieu. Après, c'est à toi de choisir. Avec l'espoir. D'ailleurs, le prophète l'a dit. Il a dit « vous imaginez qu'une femme va jeter ses enfants en enfer ». Que dire de Dieu? Par contre, la liberté et la responsabilité de l'homme ont un prix. L'enfer existe. Il ne faut pas essayer de rentrer aussi dans des spéculations philosophiques. L'enfer n'existe pas. S'il existe. Et d'abord, l'enfer terrestre. Tout ce qu'il y a dans l'au-delà, on le vit d'abord sur terre. Le paradis terrestre. Si tu fais du mal, tu vas le payer sur terre. Alors on le voit avec les gens qui ont des problèmes de conscience parce qu'ils ont commis un mal. Ils dorment avec des comprimés. Parce que la nature humaine est bonté, tout simplement. Eh bien, il y aura aussi ce problème de conscience dans l'au-delà, qu'on appelle l'enfer. Voilà à peu près la question. Mais l'idée, c'est toujours l'espoir. L'espoir. Voilà. Par contre, on ne sait pas. Ça, c'est l'affaire à Dieu. Mon fils me disait, oui, si le salut est universel, j'ai dit mal à accepter qu'Hitler ira au paradis. Il dit, ça c'est l'affaire de Dieu. Oui, venez ici mon père.
Alors, je remercie notre imam. Il n'est pas du tout un petit imam, il est un grand imam, d'après ce que j'ai entendu ce soir. Vraiment, je suis très touché et voilà, c'est pourquoi je voulais venir et pour vous remercier. Je vois ce soir un grand espoir. Je remercie pour tout ce qui fait ce rencontre ici. C'est extraordinaire. Alors, moi, ma petite question, parce que voilà, aussi, vous avez mentionné le séminaire. Alors, chez nous, même avant la guerre, au Liban, tout candidat pour devenir un prêtre, il doit étudier le Coran dans le texte pour 3 ans. Ça, c'est si vous n'êtes pas, si après vous n'allez pas vous spécialiser dans l'islam ou bien dans le dialogue. Alors, là, c'est une chose très, très importante pour que vous le sachiez. Et au Liban, on a eu aussi des imams qui sont venus même prêcher durant le carême. Ça, c'est avant la guerre. Alors, il y a eu tout ça. On va rentrer dans la question. Alors, aujourd'hui, je reçois aussi sur le Facebook un émir de, je ne sais pas, j'ai oublié d'où, mais on a à côté de l'Arabie Saoudite, là-bas, dans les Émirats peut-être, qui est venu et aussi il était pris sous une photo dans une église qui est lui-même au centre. Alors peut-être il fait aussi une prêche sur le Coran ou bien sur le carême ou bien sur le jeûne. Alors voilà, très chers amis, et maintenant je vais entrer dans la question. Alors, et nous avons lutté pour ce dialogue plusieurs années, presque une trentaine d'années ou bien une quarantaine d'années, mais la guerre est venue au Liban. Et malheureusement, oui, nous avons été heurtés. Nous sommes entrés dans cette guerre, bien sûr, je ne veux pas faire moi toute une analyse, mais la religion a été utilisée. Alors, les chrétiens se sont battus contre les musulmans contre les chrétiens, les musulmans entre eux, les chrétiens entre eux. Alors voilà, c'était une guerre à non plus finir. Il a pris toutes les étiquettes. Toutes les étiquettes. Les riches, les pauvres, les musulmans fanatiques, les musulmans, tout ça et tout ça. Alors, ma question. Et c'est une question et aussi une, comment on appelle ça, une demande ou bien, non, avant de passer à la question, je veux vous dire une chose, mais qui parle de cette remarque. Oui, les gens comme l'imam, voilà, ça c'est, que, c'est après maintenant, après une méditation, comme notre cher imam, ils ne peuvent pas rester seuls. C'est là le rôle de la laïcité en France. Des gens ouverts et des gens qui sont capables de, voilà, de faire une réforme, même dans la pensée de l'islam, il ne faut pas les laisser tout seuls. Alors voilà ma question. Peut-être chez nous, lorsque la guerre a commencé, ces gens comme l'imam d'aujourd'hui, ils sont disparus et après, ceux qui sont venus sur la scène, c'était les fanatiques et tout ça et tout ça. Et on cherche jusqu'à maintenant la paix et la paix, la paix, la paix, comme il avait dit. C'est une grande opportunité pour vous aujourd'hui, ici en France, de ne pas laisser ces gens seuls, parce qu'il vous a dit dès le début de ce dialogue que même parfois il est critiqué par sa communauté. N'est-ce pas? Il ne faut pas les laisser tout seuls. Maintenant, ma question, voilà, donne, qui part de la même. Qui va dans le même sillage. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Exactement. Pourquoi s'il y a des gens comme vous, des gens comme nous, des gens. Alors pourquoi nous, les hommes de la paix et qui cherchent la paix, on n'arrive pas dans des moments de crise, voyez, ne pas avoir le dernier mot? Est-ce que c'est de ce problème qui se trouve peut-être chez vous dans le Coran, chez nous dans la Bible, la notion de ce qui est choisi? Alors moi, les chrétiens, je suis choisi par Dieu pour annoncer le monde entier. Alors les juifs aussi pour sauver le monde entier, et maintenant vous pour sauver le monde entier. Est-ce que ce n'est pas ce problème des frères qui sont choisis? Et le problème, pour vous aller profondément, c'est le problème de Caïn et de Abel. Vous voyez, le Seigneur a choisi l'offrande d'Abel. Alors Caïn est devenu coléreux. Vous avez parlé de la colère. Coléreux. Et après, il a tué son frère. Alors voilà, c'est ma question. Elle était un peu longue, mais c'est pas grave. Parce que nous sommes amis.
Je vous remercie d'ailleurs de votre contribution. Et les Libans, et pour nous, l'expérience libanaise, chrétienne et musulmane, est une source d'inspiration pour les musulmans de France. Parce que c'est un modèle aussi qui a réussi avant que le politique ne vienne perturber cette belle expérience intercommunautaire, interreligieuse du Liban. Et nous sommes en train aussi de s'inspirer de ce modèle même en France, parce que moi et Nabil, on va intervenir bientôt dans un master société, religion et laïcité sur Marie. Et c'est une expérience que j'ai faite dans une école primaire catholique. Mais c'est une école primaire catholique à Saint-Michel, interculturelle. Il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a beaucoup de musulmans, il y a quelques familles juives, il y a des agnostiques, il y a des athées. Et il est dirigé par une femme exceptionnelle, Caroline, vraiment une expérience de symbiose où chaque enfant est valorisé dans sa différence, tout en insistant sur des valeurs universelles. Et l'année dernière, on a fêté Marie ensemble. Marie dans le Coran, Marie dans la Bible. Et c'est ce qu'on va faire avec Nabil, parce que c'est ensemble qu'on peut lutter contre ces ignorances. Et ce qui nous perturbe ici, vous l'avez dit mon père Nabil, c'est le politique. C'est le politique et c'est les identités en choc. Quand la religion se transforme en politique ou en identité, ça devient dangereux. Quand vous dites les musulmans aujourd'hui, les maronites au Liban, ou les chiites, ou les sunnites, c'est beaucoup plus une identité politique que religieuse. Parce que si on laisse les maronites en tant que religieux, les musulmans en tant que religieux, ou les juifs en tant que juifs, eh bien, ça sera l'attente, parce qu'on a les mêmes textes, on a les mêmes références, avec des différences qui font notre richesse. C'est cette laïcité à la française qu'il faut préserver. C'est un modèle. C'est la laïcité, c'est la gestion du pluralisme, avec des valeurs communes. et c'est la paix. Tous les prophètes ont ce signal. Dès qu'il y a la guerre, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et ce sont les fanatiques, c'est les intégristes. On le voit aujourd'hui, des mercenaires qui se réclament de l'islam. Daïch, Al-Qaïd, c'est qui des mercenaires, c'est... Voilà. Donc il faut préserver notre modèle, et c'est par ces gens, et c'est ensemble. Il faut multiplier les espaces de dialogue, d'interculturalité interreligieuse. D'ailleurs, le Coran parle d'intertextualité, en s'agissant du Coran. C'est-à-dire que tu ne peux pas lire le Coran sans une approche comparée avec la Bible. Ça, il faut encourager ce genre d'initiative. Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les identités en choc. Et c'est l'occasion de vous le dire aujourd'hui, parce que ce qui nous hostile à nous, ça vient des musulmans, et ça vient aussi des gens qui se disent catholiques, identitaires. Vous avez aujourd'hui un groupuscule à Bordeaux qui s'appelle le bloc identitaire. Là où je parle, il essaie de circuiter et de perturber ce que j'ai dit. Et là, ce qui circule aujourd'hui sur Internet. Et la semaine dernière, j'ai eu la médaille de réserve citoyenne. C'est un honneur pour moi d'être utile à mon armée, à la défense nationale, à l'armée de l'air. Et le Front National est en train, pas le Front National, le bloc identitaire est en train de faire circuler sur les réseaux sociaux que je suis un imam négationniste. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de massacre des chrétiens en Orient. Alors que je suis le premier à dénoncer, ils ont déformé mes propos, j'ai dit à la télévision, attention à la désinformation. Ce qui tue les chrétiens en Orient, ce sont d'abord bien sûr des fanatiques qui se crachent au modèle juif, mais ce sont tous des états autoritaires qui veulent créer et confronter les religions et les dînes. Parce qu'on a vu des églises coptes protégées par des musulmans. On a vu des mosquées protégées par des chrétiens. Donc c'est de l'instrumentalisation du religieux. Alors que j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un dîner de soutien aux chrétiens d'Orient, où le père Nebel était là avec le monseigneur Gollnisch. Donc c'est insensé de dire que les chrétiens ne subissent pas des injustices en Orient. Mais aussi les musulmans. Les premières victimes du terrorisme sont des victimes musulmanes. Aujourd'hui, donc voilà. Donc il faut faire attention à ces identités. La même chose dans le côté musulman. Aujourd'hui, je suis musulman parce que c'est une identité contre l'autre. Eh bien, la foi n'est jamais contre. La foi en Dieu n'est jamais contre quelqu'un. C'est toujours avec l'autre.
Oui, dans ces conditions, on a parlé effectivement assez souvent de la laïcité à la française, qui est quand même un certain particularisme dans le monde. Il y a la loi de 1905. Pourquoi est-ce que régulièrement on veut la changer au titre de l'islam, alors qu'au niveau des catholiques, régulièrement la conférence des évêques de France rappelle que c'est une bonne loi et qu'il ne faut pas surtout la changer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la laïcité, c'est comme la religion. Tout le monde en parle pour donner sa propre conception. Tout le monde se cache derrière la laïcité pour dire autre chose. C'est une belle femme qui est convoitée par tout le monde. Et tout le monde prétend l'aimer alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Donc la laïcité, c'est une chance, mais à condition qu'elle soit bien comprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias, ce sont des conceptions idéologiques de la laïcité. J'entends souvent laïcité positive, laïcité négative, laïcité d'intégration, laïcité. La laïcité, c'est la laïcité. Elle a d'abord un esprit, un principe et une loi. Voilà les trois choses qui définissent. L'esprit, c'est que la laïcité est une pacification. Vous savez très bien les conditions historiques dans lesquelles la laïcité française a été faite. Il y avait la guerre des religions, mais il y avait un conflit au nom de la religion entre protestants et catholiques. Donc c'était douloureux. Donc il fallait permettre à tout le monde de vivre ensemble avec les différences. C'est ça d'abord ce qui a justifié la laïcité. C'est que la liberté de conscience, c'est que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais on vit ensemble. Ça c'est l'esprit. Le principe, c'est la neutralité de l'État. L'État ou les institutions publiques n'ont pas à se référer à la religion. On n'a pas à savoir quelle est ta religion quand tu es enseignant, quand tu es préfet, quand tu es à l'administration pénitentiaire, quand tu es, etc. Tu es neutre. Mais neutre ne veut pas dire que je n'ai pas des convictions religieuses. J'ai ma foi, mais elle est de l'ordre privé. Privé ne veut pas dire la maison. Je dois la vivre en dehors de mon champ professionnel. C'est ça. Et la loi 1905. Et la loi 1905, c'est deux articles essentiellement. Les 40 articles gèrent un peu le rapport de l'État avec l'Église catholique, une question de biens matériels essentiellement. La liberté de conscience, le libre exercice du culte et la neutralité de l'État. Ne salarie, ne subventionne pas. Voilà à peu près. Mais c'est ce pluralisme-là avec des valeurs universelles. À un moment donné aussi, on met des limites à la pratique religieuse. La laïcité, c'est aussi mettre des limites quand ça perturbe l'ordre public. D'accord ? Quelqu'un qui veut faire sa prière, ou bien par exemple un musulman ou un juif qui veut imposer sa pratique religieuse à l'hôpital, c'est-à-dire l'hôpital respecte la liberté de conscience, tu peux choisir ton médecin, je cite des exemples, hein. Tu peux choisir ton médecin, mais en cas d'urgence, tu n'as pas à imposer ta loi. En cas d'urgence, tu n'as pas à perturber le bon fonctionnement de l'hôpital. C'est ça la laïcité. Je te respecte, mais à condition de ne pas perturber l'ordre. Donc, vous l'avez dit très bien, la laïcité à la française est un modèle universel. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'interaction des cultures et des civilisations, je crois qu'on a besoin de ce modèle, à condition qu'elle soit bien comprise.
Oui, on va prendre une dernière question.
Moi, je voulais poser une question. Est-ce que les grandes religions ont des rapports avec le ministère de l'Éducation, par exemple, pour prévoir des cours de religion dans les
écoles,
En Allemagne, par exemple, j'ai des enfants qui suivent des cours de religion et d'autres religions.
Très bonne question. C'est exact. Oui. Pour revenir à la laïcité, dit exactement ce que vous dites, madame. La laïcité à la française, parce qu'elle garantit la liberté de conscience, elle prévoit l'enseignement de la religion dans une partie de la France, qui s'appelle l'Alsace-Moselle, vu son histoire. Dans les écoles publiques, il y a des sœurs ou des prêtres ou des pasteurs qui donnent l'enseignement religieux. Donc c'est ça la laïcité. Dans le reste de la France, il y a ce qu'on appelle des aumôneries catholiques ou protestantes, ou bientôt musulmanes aussi, dans les écoles publiques. Sauf que la loi dit, c'est le rectorat qui donne l'autorisation. Il suffit qu'il y ait entre 6 et 10 familles qui le demandent. Donc, le problème n'est pas dans les textes, mais c'est dans les têtes. Si vous tombez sur un rector qui veut rien entendre, si vous tombez sur quelqu'un qui veut rien comprendre, moi je vois aujourd'hui le monérique. Oui, bien sûr.
Là, je vais faire juste un complément. Oui, je peux juste faire un petit complément parce que là, l'éducation, c'est quand même mon job depuis longtemps. Je crois qu'il faut distinguer vraiment deux choses. Et faut l'enseignement de la religion et l'enseignement du fait religieux. L'enseignement de la religion, je crois que la laïcité est claire là-dessus. On n'a pas à l'école publique à enseigner la religion. Par contre, le fait religieux, là, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que le fait religieux, il est théoriquement, depuis François Mitterrand, il est dans les programmes scolaires et on se heurte à, l'inculture des enseignants, et je sais de quoi je parle parce que j'ai enseigné l'histoire-géographie, c'est ma spécialité, et je connais mes collègues. Donc là, ils ne peuvent pas enseigner quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, en fait, c'est pas fait, c'est mal fait. Et puis, il y a une deuxième chose dont il faut parler aussi, c'est que il y a la laïcité, il y a des gens qui respectent la laïcité, et puis il y a des ayatollahs de la laïcité, des laïcistes, et que les laïcistes, ce sont des gens au nom duquel il ne faut rien dire. Or, je suis d'accord avec Mahmoud, je veux dire, ça fait 40 ans que je suis dans l'enseignement public, je suis parfaitement laïque et j'ai pas de preuve à donner de ça, ça parle tout seul, mais je suis aussi protestant engagé depuis la même durée de temps, et ça ne m'a jamais empêché de respecter la règle de laïcité. Mais mon identité protestante, je ne la laisse pas à la porte du lycée, hein, je suis comme je suis. Donc le fait religieux, là il y a un déficit extraordinaire, et je pense que effectivement l'éducation nationale porte une part de responsabilité. De même que l'enseignement de l'histoire fait de telle façon qu'on occulte toute une série de choses. Donc voilà, pas d'enseignement de religion, non. Là, je pense que clairement, l'histoire de l'Alsace-Lorraine, la Moselle, c'est lié au fait qu'ils étaient allemands quand on a fait la loi de la laïcité, donc ils sont restés sur leur statut. On peut comparer les deux systèmes. Hein. Moi, je trouve que le système alsacien est bon, mais on est dans un autre système, ça fonctionne comme ça, on n'a pas à revenir dessus. Voilà, je pense que c'était bien de poser ces deux points.
Oui, je voulais réagir sur, précisément sur le régime d'Alsace-Lorraine. Alors, tu viens de dire. Je veux resituer les choses au niveau de la loi 1905. Il se trouve que quand il y a eu en 2005 l'anniversaire de la loi 1905, le ministère de l'Intérieur a souhaité que les préfets réunissent les autorités religieuses pour voir comment marquer l'anniversaire. Et à ce moment-là, pour le catholicisme, c'est moi qui ai été envoyé à la préfecture. Il y avait deux représentants de l'UIF autour de la table, il y avait quelqu'un de la réforme, et je pense qu'il y avait quelqu'un du consistoire israélite. Et à ce moment-là, moi, j'ai plaidé pour la position de l'épiscopat français à ce moment-là, pour le maintien strict de la loi 1905 et de la jurisprudence. L'Église catholique porte une responsabilité dans le fait de la loi de 1905. Pendant tout le 19e siècle, il y a eu une réaction très forte de la majorité des catholiques une certaine opposition à la République. Et en face, bien entendu, il y a eu un durcissement. Et alors ça a mis des années. À ce moment-là, à la fin du 19e, Léon XIII, le pape Léon XIII, a demandé au cardinal Lavigerie, qui était alors évêque d'Alger, la flotte française vient à Alger, et Lavigerie demande que. Léon XIII demande à Lavigerie de faire un toast à l'honneur de la République et d'entraîner à la collaboration avec l'État français. Et là, il y a eu un commencement de virage. Il y en a eu à travers un certain nombre de catholiques ouverts qui, à la fin du XIXe, ont tracé un chemin. Les choses se sont durcies au début du siècle et il y a eu l'affrontement que vous savez. À ce moment-là, il y avait à l'intérieur du cabinet du premier ministre de l'époque une partie dure qui était représentée par Clémenceau je pense qu'il y avait dedans, il n'y avait pas de Clémenceau, il y avait. Il y avait Combes, mais Clémenceau, dont on ne parle pas, était aussi dur que Combes. Et puis, il y avait Briand, qui était ministre des Affaires étrangères. Et c'est Briand qui a permis que la loi soit ce qu'elle est. Quoi. C'est la partie tolérante de Briand qui a permis à la loi d'être ce qu'elle est. Et puis, dans cette perspective, la jurisprudence du Conseil d'État permis une cohabitation qui est pacifique et qui permet à chacun d'exister librement. Quoi, voilà, hein. J'en profite là, puisque je parle de dire un mot sur la tentation de l'intégrisme, quoi, que quelqu'un y a fait allusion. Et il me semble que le gros danger pour chacun d'entre nous, c'est d'absolutiser notre foi. Et d'absolutiser, tu en parlais hier, on parlait de la vérité, c'est d'absolutiser notre conception de la vérité. Et je crois que le dialogue interreligieux est absolument nécessaire. Le dialogue interreligieux est absolument nécessaire avec la conviction que chacun approche de Dieu à travers des chemins différents. Et le dialogue n'est possible que si chacun a conscience que l'autre a quelque chose à lui apporter. Et parce que nous pratiquons ce dialogue depuis des années, c'est bien qu'il y a un chemin spirituel qui peut se tracer à partir de là. Je ne l'ai pas toujours senti chez tous les imams que j'ai rencontrés. Pas seul avec qui on dialogue, mais enfin. Il y en a que l'on rencontre, avec qui on ne dialogue pas, mais que l'on rencontre simplement. Ça me paraît, c'est quelque chose de capital, quoi. Ne pas absolutiser et puis penser que l'autre a quelque chose à m'apporter.
Merci.
Voilà, je pense qu'il va être temps de clore parce que ça commence à être tard. Je voudrais donc remercier évidemment Mahmoud pour la qualité de son intervention. J'avais déjà été l'an dernier très, très heureux de l'écouter et je pense qu'effectivement on est pour reprendre la voie, je ne vais pas le dire en arabe parce que je suis mauvais, mais on est sur la bonne voie quand on travaille comme ça. Et je pense qu'il ne s'agit pas pour les chrétiens de devenir musulmans et pour les musulmans de devenir chrétiens, mais c'est tellement mieux quand on est pacifié et quand on regarde ce qui nous est commun, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui nous sont évidemment communes. Voilà, merci beaucoup pour merci tout cela.